Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Alors, nous allons ouvrir un passage de notre Bible. Naturellement, la Bible. Et j'aimerais justement nous conduire dans cette réflexion, dans cette méditation particulière. Nous allons lire un texte dans Josué, chapitre 1er. Et nous allons donc, poser nos yeux sur quelques versets. Alors, je rappelle, Josué, chapitre 1er et verset 1er. Donc, ce n'est pas trop difficile pour identifier. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire tout le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer qui, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne point, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors voilà, vous connaissez naturellement ce passage particulier que nous avons dans l'Ancien Testament. Et nous allons justement évoquer quelque chose qui nous concerne, qui a rapport avec notre marche, et particulièrement dans les moments de difficulté que nous pouvons connaître dans notre fonctionnement, la vie d'une église, par exemple. Oui, la vie d'une église. Dans tout ce qui peut se présenter et qui, quelquefois, est susceptible de nous faire baisser les bras, de nous, tout simplement attrister. Et nous avons vraiment besoin de ces paroles. Devant une œuvre qui est celle, en nous rappelant celle que Josué a dû mener, parce que c'était certainement pas une petite affaire, de faire la conquête, du pays de Canaan. Alors, j'aimerais justement dédier cette parole à l'escalier, dans toute simplicité, mais c'est une forme de lettre que je voudrais que vous puissiez entendre, à ceux qui gravissent des montagnes, à ceux qui sont devant des situations qui les dépassent, où ils se sentent si petits, réduits à rien du tout, et pourtant Dieu les envoie. Et Dieu, les met en place, sans que, quelque part, ils aient véritablement cette témérité de dire « mais moi j'y arriverai ». Bon, ça s'appelle tout simplement une forme d'orgueil ou quelque chose qui lui ressemble. Donc, ce est peut-être parmi nous, certainement parmi nous, dans l'œuvre de Dieu, dans sa généralité, il y en a beaucoup, probablement, eh bien, qui gravissent finalement des montagnes. Vous savez, les montagnes, c'est bien quand on a du souffle. Eh oui, de toute manière et en toute forme. Mais c'est pas toujours facile. Moi, quand j'avais une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on est toujours en vacances en montagne, je grimpais. Allègrement. Et maintenant, ben, je fais un peu comme dans le livre d'Ecclésiaste. Quand on vieillit, eh bien, on perd son souffle, on n'en a plus. J'ai 2 étages pour aller jusqu'à mon appartement. Myriam est en pleine forme. Pas de problème. Mais moi, c'est plus difficile. Heureusement qu'ils ont mis des rampes. Non, n'allez pas vous imaginer que c'est impossible. Hein, mais j'y arrive parce que je couche quand même tous les soirs chez moi. Hein. Et pas dans l'escalier. Mais bon, toujours est-il, je voudrais vous parler des montagnes de difficultés, tout simplement existentielles, de notre vie. Et cela sous toutes ses formes, en tout genre. Alors que ce soit la santé, peut-être il y a des frères et des sœurs qui sont préoccupés en ce moment parce que leur santé est vraiment vacillante. Il y a peut-être des membres de votre famille qui sont dans une situation critique sur le plan de la santé, sur le plan familial. J'y ajouterai sur le plan conjugal parce que tout ça c'est lié. Peut-être à la recherche d'un travail, d'un emploi, et aujourd'hui c'est pas gagné hein, avec tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons connu des frères et des sœurs tout dernièrement qui ont perdu un être cher. Comment vivre maintenant? Comment vivre sans elle? Comment vivre sans lui? C'est quelquefois, eh bien là, étourdissant ces situations. Alors après, il y a toutes les questions matérielles, administratives, financières, enfin bon, toutes sortes de choses. Et puis, je toucherai quelque chose qui n'est peut-être pas le propre des chrétiens, mais toujours est-il que c'est pour l'image elle-même, eh bien, les exercices sportifs, où il faut, là, finalement, eh bien, avoir un tenus extraordinaire, je dirais, de champion. Alors, on le voit, ça. Et c'est vrai qu'on se dit, mais vraiment, il mérite la couronne, hein, pas d'épines, mais de laurier et toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça, c'est physique. Et puis, on fait bien des activités physiques. Quelquefois, on se dit, en vieillissant, ben, c'est plus difficile. Alors, tout ça, c'est vraiment des choses que j'aimerais mettre devant vous. Et vous parlez des montagnes, vous parlez des conquêtes. Là, c'est une conquête. Il y avait des montagnes en Pays de Canaan. Hein. Ce n'était pas forcément des collines toutes petites. Hein. Et il y a toujours un passage qui m'encourage moi-même. C'est dans l'Évangile, où c'est une prière, où il est dit ceci, « C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. » Et vous ajouterez, il ne faut pas l'oublier, « selon ton bon plaisir, à toi, pas à moi. » À toi, on s'arrête là, naturellement. Alors, c'est intéressant de prendre la mesure de tout cela, et j'espère que ce sera pour vous un encouragement. Peut-être certains, cette semaine, ont désespéré en disant « ben, pourquoi continuer ?» Pourquoi vivre, peut-être? C'est encore autre chose, beaucoup plus grave. Pourquoi? Pourquoi dois-je encore prier puisque je n'ai jamais rien vu arriver? Non. En tous les cas, vous n'avez rien vu arriver, mais il y a quelqu'un qui a des oreilles dans le ciel. Et c'est quelquefois formidable de voir qu'on a pu prier pendant des années. Il ne s'est rien passé de particulier, mais Dieu nous a mis à l'école de la patience. Et puis à un moment donné, paf, ça y est, ça s'ouvre. Et là, il y a quelque chose derrière tout cet emballage, quelquefois qui est difficile à porter, un habit lourd. Mais après, dans le carton, si vous voulez aller par là, il y a véritablement la réponse. Et ça, c'est formidable. Et moi, je voudrais titrer mon message ce matin, « Faire » ou tout simplement « L'effort de croire ». Ça se limite à cela, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. Ce n'est pas nous qui les fabriquons. Alors, on peut les fabriquer, ça, c'est certain. On peut se donner l'illusion, eh bien, que, bah, quelque part, avec une certaine adresse, avec peut-être être un petit peu sortant de l'ordinaire, d'une intelligence classique, eh bien là, voilà, les choses se font. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a une maxime qui dit ceci, vouloir croire, c'est une volonté. C'est quelque chose qui doit stimuler notre volonté, passer par notre volonté. Vouloir croire est un saut dans l'inconnu. Eh oui, comme celui qui se lance, par exemple, avec des cordes élastiques, là. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Et n'attendez pas à ce que je le fasse. Hein. Moi, je passe sur le pont, mais je ne passe pas en dessous. Alors, bon, ils sont courageux, c'est très bien. C'est bien pour eux. Le saut dans l'inconnu, et c'est vrai, mes frères, il faut surtout que vous assimiliez que la foi, ce n'est pas, eh bien, un sentiment, une émotion religieuse. J'ai senti que, mais non, ça c'est pas ça. La foi, c'est une conviction, une certitude au niveau de notre âme, au niveau de notre, qui va stimuler notre être entier, quelque part. Hein. Oui, et qui nécessite de faire confiance, écoutez bien ceci, sans voir ni savoir à l'avance. Eh bien, dites donc, nous les hommes, hein, on est quand même des petites fourmis, et on est près de la terre, hein, ça c'est certain. Et quelquefois, eh bien, Dieu nous dit, bah, arrête avec tout ça. Oui, mais l'intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donnée, c'est vrai, il faut s'en servir. Mais je pense que, écoutez bien, c'est sans voir ni sans savoir ce qui va se passer à l'avance. C'est un abandon. C'est mourir à soi-même. C'est quelque chose qui va véritablement, eh bien, authentifier que nous sommes nés de nouveau, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, nous pouvons sauter. Ouais, nous pouvons sauter. Entre les bras de Dieu, hein, dans les bras de Dieu. Et il nous récupérera toujours. Tentation subtile, diabolique que Jésus a entendue dans la troisième phase. Hein, jette-toi du haut du temple et puis il va te garder. Ça, c'est tout simplement de la témérité. Ça n'a rien à voir avec la foi. Alors, on va parler du personnage de Josué et ses qualités. On les a tout simplement lues, mais j'ai voulu tout simplement, eh bien, là, vous mettre en face de ce texte. D'abord, Josué a été à l'école de Moïse et il en a vu des choses. Oui, il ne peut pas dire, moi, je ne sais pas, etc. Il en a vu, mais chez Moïse. Et avec Moïse, derrière Moïse, il y avait Dieu. Alors, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est sa fermeté. Priez, mes frères, que Dieu nous donne de la fermeté dans notre espérance en Dieu. Ne soyons pas là, eh bien, ballottés à tout vent parce qu'on ne verra rien. Comme les flots de la mer, hein, on n'est pas loin, si vous voulez vous inspirer, vous verrez cet après-midi. Hein. Sa fermeté. Et puis, il y a ses résolutions. Il n'a pas été voir, il a eu certainement des craintes, comme tout le monde. Mais il n'a pas été voir à tout bout de champ Moïse pour lui dire « j'y arriverai pas ». Ben, si vous dites que vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Naturellement, toujours, l'objectif, c'est Dieu. Enfin, disons, c'est toujours notre modèle. Résolution. Il était sage, sauf dans quelques occasions avec, il me semble, avec les ceux de Gabaonites. Et puis, il a le courage aussi. Parce que tout ça, ça donne du courage, la fermeté, la résolution, la sagesse, courage. Et puis, il était dévoué quand même, parce que quand il s'y mettait, ce n'était pas tout simplement pour faire du camping dans le désert. Hein. Et avec un peuple irascible, avec un peuple aux courroies, on peut dire. Hein. Mais par contre, il a continué à suivre l'exemple de Moïse, avec beaucoup d'empathie pour ce peuple, qui est le peuple de Dieu. Et puis avec un souci de justice, ça c'est certain. Et nous apercevons dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est qu'à chaque obstacle, et dites-vous-le bien, même vous le voyez pas, peu importe, mais à chaque obstacle difficile, Dieu lui fait une promesse. Chaque fois. Alors il faut l'apercevoir, il faut la décoder, il faut savoir comment Dieu parle. Il parle par sa parole, on l'a lu, hein, que ma parole, que l'Écriture, eh bien, soit toujours devant tes yeux, etc., etc. Alors nous voyons que Dieu va lui faire une promesse à chaque fois, parce qu'à chaque fois c'est un obstacle. Qu'est-ce que je fais? Je passe ou je passe pas? Je saute ou je saute pas? Regardez par exemple à la traversée du Jourdain. Hein. C'est pas évident, hein, parce que là ils connaissaient ni le terrain, ni les gens, ni rien du tout. Hein. Et Dieu lui dira à ce moment-là, je suis avec toi, je suis avec toi. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? N'allez pas vous encombrer avec de la culpabilité, de la fausse culpabilité, de la pseudo-culpabilité. Parce qu'il y en a un qui... Là, il est, là je peux vous dire qu'il vous, il vous envoie des drones, hein, pour essayer de vous neutraliser. Oui, je suis avec toi, je ne te ressens pas, je ne te sens pas, Seigneur, je ne te vois pas, etc., etc. Laissez-le faire, lui, il nous voit, même si on ne le voit pas. Et on n'a pas besoin de ça, parce que ce n'est pas les yeux qui doivent fonctionner. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, référence. C'est bien de savoir qu'il avait vécu une grande partie de sa vie, il avait peut-être 40 ans à ce moment-là, quand il a pris les rênes du peuple d'Israël pour le faire rentrer dans le pays de Canaan. Mais j'ai été avec Moïse. Tu as vu comment j'ai fait? Et Moïse, je peux vous dire que c'était pas des miracles, c'était des prodiges, mais des choses qui dépassent l'entendement. Alors, il pouvait se dire, en entendant ces paroles, « Eh bien, si tu as été avec le grand Moïse, moi qui suis tout petit, eh bien, tu seras aussi avec moi, parce que je ne sais pas comment faire, hein, je ne sais pas où j'en suis. » Il s'est retrouvé dans des moments difficiles, Josué, face aux ennemis, les Cananéens, et Dieu va lui faire encore une promesse. Nul ne tiendra devant toi. Ah, ça c'est pas mal. Donc, tu vois des ennemis, ils sont redoutables, ils sont terribles. Ce sont des gens qui sont des païens maudits, on pourrait dire. Hein. Ce sont des hommes, mais avec leur occultisme, avec toutes ces choses dont vous avez été préservés. Je dis bien préservés. Un petit peu, parce qu'en Égypte, ils en ont vu d'autres, hein, de l'occultisme, hein, ça c'est certain. Mais ça pouvait lui revenir quelque part. Hein. Et Dieu va lui dire, mais nul ne tiendra devant toi, ta personne, parce que tu es sous, véritablement, eh bien, là, ma protection. Aucun problème. Alors, faut pas faire les fanfarons, il faut pas être téméraire en disant, bien écoute, moi je suis suffisant en vœur, allez-y, tirez-moi dedans. Je vais pas mourir. Non, c'est pas ça, faut être sage, hein. Il faut être sage, parce que quand on fait des choses comme ça, pour épater la galerie, oui, épater la galerie, hein, parce que quelquefois, il y en a certains qui veulent être plus forts que les autres et puissent se valoriser, avoir de la popularité en disant « ça, c'est un champion hein. ». Mais on n'est pas champion du tout, hein. Champion de rien du tout. « Nul ne tiendra devant toi sur cette terre inconnue. » Ensuite, « tout lieu que je te donne, eh bien, sera le tien. » Tout lieu, je te le donne. Et puis, il y avait un si vaste territoire, proportionnellement parlant, naturellement, mais un vaste espace à conquérir. Et Dieu va lui dire également, par rapport à toutes ces difficultés, ces montagnes à gravir, il lui dira, tu posséderas Josué pour Israël, pas seulement pour toi. Toi, tu es le chef de file, tu es le capitaine, tu es le général. D'accord ? La stratégie militaire. Militaire et avant tout spirituel. Alors à ce moment-là, le pays qui est devant toi, il est à toi. Voilà. Il faut bien penser que quand Dieu nous fait des promesses, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme et la nature, eh bien c'est que Dieu sait ce qu'il va nous donner. Il va nous donner non pas quelque chose de ressemblant, il va nous donner le meilleur parce qu'il a préparé, selon son bon plaisir pour nous, eh bien ce qu'il y a de total, d'entier. Et ça, nous l'oublions quelquefois, parce qu'on est complètement embrumé dans toutes sortes de craintes, de soucis, toutes sortes de peurs aussi. La peur, c'est terrible. Mes frères et sœurs, priez pour que vous puissiez surmonter vos peurs. Parce que là, vous donnez le meilleur au diable. Hein. Vous avez peur quelquefois? Ouais, ouais. Ben moi, je peux vous dire que quelquefois, j'ai des sacrées craintes. Hein. Je vous le dis honnêtement. Il y a des fois, je m'inquiète pour pas grand-chose, parce qu'une fois que la chose est passée, bah, c'est passé. Mais quelquefois, je me dis, mais, excusez-moi, je me parle à moi-même, hein, pas à vous. Hein. Qu'est-ce que t'es bête? Mais oui, c'est pas la peine de s'affoler, quelquefois, ça peut empêcher de dormir et tout ça. Mais bon, ça dépend du tempérament et du caractère de chacun. Et c'est difficile pour un craintif, finalement, de jouer dans la grande cour de, avec Dieu et de la foi. Mais on a besoin d'être affranchi, on a besoin d'être guéri. Regardez un homme comme Pierre, qui était un vaillant, un impulsif, etc. Je peux vous dire qu'il a eu des sacrées peurs, hein, Pierre, hein, pour jusqu'à mentir, jusqu'à faire des choses qui étaient complètement impensable pour un homme comme ça. Tu posséderas pour Israël le pays qui est devant toi. Eh oui, faut toujours penser que les promesses que Dieu nous a faites, elles sont préparées, elles nous attendent. Et nous on dit, Seigneur, tu ne fais rien. Et si le Seigneur ouvrait un coin du ciel, il nous aurait aimé. Ce que tu m'as demandé, premièrement, c'est préparé, c'est fait. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Je vais te donner au temps convenable. Savoir attendre, c'est la patience. Savoir finalement, eh bien, faire confiance à Dieu. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si c'est pas demain, ce sera peut-être dans un an. Mais quand vous allez le recevoir, ce cadeau de Dieu, vous allez voir qu'il n'a rien oublié, aucunement. Et on se dit, mais Seigneur, c'est formidable. Moi, je me réjouis de voir des situations qui s'éclairent, des situations qui prennent fin en ce moment, des situations où véritablement les uns et les autres, les églises, notre église a prié pendant des années, des mois, etc. Bon, on n'a pas souffert le martyre, mais on en a passé des choses incompréhensibles, tout en restant bienveillant. Parce que quelquefois, il y avait quoi peut-être s'enflammer. Et il n'y a pas que celle-ci. Hein. Moi, je me souviens, il y a 15 ans en arrière, hein, avec les histoires qu'on a pu avoir, hein, jusqu'à être traduit devant la gendarmerie et la police, je peux vous dire, il y avait de quoi aussi avoir des craintes et des peurs, hein, pour avoir rien fait, des accusations. Alors, moi, je dis que tout cela, eh bien, c'est devant moi. Il y a des choses qui sont préparées. Mais quelquefois, on dit, ouvre les cieux, déchire les cieux et viens, Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, mais c'est toi qui es en train de gratter pour savoir ce qu'il y a dans le, ce qu'il y a. Mais tu ne fais que retarder et tu ne fais que de t'épuiser. La foi, c'est la paix. La foi, c'est la tranquillité à l'intérieur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. J'allais pas vous dire le contraire quand même. Tremblez. Alors, on va voir les conditions du succès maintenant. Je vais relire le passage que nous avons pris tout à l'heure. Alors donc, voilà. Qu'est-ce qui nous est dit dans Josué? Et je cite le verset 7 et 8. Il est dit ceci. « Fortifie-toi seulement, il n'y a que ça à faire, et bon courage, en agissant fidèlement, tout selon la loi de Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne vous laissez pas impressionner par tous les tremblements et tous les rugissements qu'il peut y avoir autour de vous. N'ayez pas peur. Tu entreprendras finalement eh bien, de faire cette conquête. Mais alors, Dieu nous a donné quelque chose de formidable, c'est qu'il nous a donné un livre. Et comme nous savons tous lire, eh bien, il suffit de l'ouvrir pour avoir du réconfort et s'imprégner des promesses qu'il nous a données, ou nous remémorer les promesses. Eh oui, moi j'ai du mal à comprendre que finalement, un chrétien qui ne prie plus, qui ne lit plus sa Bible, pas d'une manière systématique et légaliste, hein, mais avec intérêt et avec amour. Mais on va loin avec ça. Hein. Il nous a donné un code de vie, un code qui nous permette, médite-le, et tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais bien sûr, tout cela va se réaliser. Fortifie-toi et prends courage. Et nous voyons que ce sont des paroles de stimulation, je dis bien stimulation si nous comprenons bien le sens, pour ne pas baisser les bras. Et Dieu nous dit et nous rajoutera autant que ça sera nécessaire dans les crises particulières, les sommets là où véritablement il y a encore plus de problèmes. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, je ne te délaisserai pas. Écoutez, moi je me suis toujours posé la question, pourquoi le Seigneur a-t-il eh bien, permis 430 ans des Hébreux dans le désert et il les a fait sortir pour leur donner le pays? Mais il aurait pu les laisser en Égypte, il aurait pu les laisser dans le désert, mais il les a conduits jusqu'au bout. Et ne croyez pas que Dieu est un Dieu de châtiment permanent parce que nous avons tous des erreurs, nous faisons tous des péchés. Mais de nos péchés, de nos erreurs, il va les transformer pour nous apprendre à son école. Et même nous dégoûter du péché. Mais oui, mais pour être dégoûté du péché, il faut bien une vie, hein, dans certains cas. Eh oui, mais le Seigneur sait le faire, et c'est lui qui va le faire. Ne t'effraie pas, je ne te délaisserai pas, ce texte que nous retrouvons dans le livre des Hébreux. quelques assurances référentielles bibliques que je voudrais vous donner maintenant à méditer. Pour ceux et celles qui gravissent des montagnes, vos montagnes propres à vous, dans votre vie. Il est parlé dans Ézéchiel d'un grand cèdre tutélaire que Dieu va couper le sommet. C'est beau un cèdre, hein ? Ah ouais, c'est un arbre quelque part formidable. Et Dieu dit, je vais couper la tête de ce cèdre, parce qu'il est trop élevé, parce que mais il y a une question d'orgueil. Il s'agit d'Israël, hein, naturellement. Et c'est le symbole, eh bien tout simplement, de l'arbre majestueux. Et Dieu dit, je le planterai, j'en prendrai une partie de ce sommet, ou de peut-être en bas, hein, je ne sais pas. Je le planterai sur une haute montagne au sommet, et à ce moment-là, il portera des fruits. Quand il aura été étêté, vous savez ce que ça veut dire, hein ? Ouais, il va repartir, mais il va être planté sur une haute montagne, c'est-à-dire c'est la domination. C'est ce qui s'est passé pour les Hébreux avec Canaan. C'est ce qui s'est passé dans toutes les guerres d'Israël. Et peut-on penser qu'aujourd'hui, il en est de même ? Je ne sais pas. Hein ? Alors, je le planterai sur une haute montagne, au sommet, et là, il portera des fruits. Et les fruits, c'est les fruits de l'Esprit que Israël n'a pas encore atteint, hein, parce qu'il n'a pas encore reconnu son Messie. Mais il est bien dit, dans la perspective des temps et des siècles, hein, il portera du fruit. Et c'est vrai pour un simple chrétien que nous sommes. Et Israël saura, eh bien, le prix de ses efforts dans la douleur. Et je crois que c'est important. Vous savez, c'est Dieu ce qui fait. Eh bien, c'est qu'à travers tous ces temps d'attente, ces temps où nous devons marcher par la foi, non pas par la vue, eh bien, c'est que Dieu est en train de nous préparer, non seulement pour cette terre, mais pour de l'autre côté. Parce que les dons vont disparaître, mais les fruits resteront. À l'image de Jésus, être comme Jésus, vivre comme Jésus, aimer comme Jésus. C'est assurément un effort, et cet effort est synonyme de sacrifice. Vous savez, pour revêtir, je pourrais dire, la livrée de Jésus, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même, hein, eh bien, il y a besoin de sacrifice. Et sacrifice à ce que nous tenons le plus. Moi, j'ai une pensée, c'est la pensée d'Abraham. Abraham a attendu son fils pendant des années. Et puis, à un moment donné, Dieu lui a parlé. « Allez, Abraham, maintenant, on va passer à des choses sérieuses. Tu vas aller sur le mont Morija. Et là, tu vas me sacrifier ton fils. » Et oui, sacrifier ce que nous aimons le plus. Mourir à nous-mêmes. Si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien, qu'il se charge de sa croix. Une croix, c'est pas fait pour... C'est pas de la gymnastique, hein. Excusez-moi l'expression... Oui, mais de pouvoir finalement, les pieds et les mains, comme ça tu ne peux plus bouger. Et il n'y a plus que la souffrance à laquelle tu fais face. Donc c'est le symbole du sacrifice à ce que nous tenons le plus. Et à ce moment-là, au dernier moment, parce que c'est souvent au dernier moment, à l'ultime moment, Abraham s'entend dire du ciel cette parole, « Je suis l'Éternel qui pourvoit ». Eh bien, merci Seigneur. Et moi, je pense que on peut être réjoui lorsqu'après des temps de prière, des mobilisations de l'Église pour ceci, pour cela, quel que soit finalement le sujet, à un moment donné, on se dit, mais il n'y a plus rien, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? On peut toujours se débrouiller tout seul, mais ce n'est pas ça ce qui est important. C'est véritablement voir quand on a demandé des prières précises. Eh bien, ces prières précises se réalise encore mieux de ce que nous avons pensé et imaginé. Merci Seigneur. Vous comprenez que je sois content ? Que vous êtes contents, mes frères et sœurs ? Parce qu'il y a eu de la peine. N'ayons pas peur. Vous savez, moi, en tant qu'ancien pasteur, moi, je suis là, je ne suis plus là, hein, mais toujours est-il que j'ai vu des frères souffrir. Des frères dire certaines choses. Et moi, je ne peux pas dire, ah bah oui, bah, débrouillez-vous maintenant, c'est pas ça. Quand on est pasteur de cœur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je me dis, ben merci Seigneur, parce que tu envoies finalement, eh bien là, le secours, et il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un printemps, même si on a fini celui-ci. Hein. Ben oui, dans quelques jours, on passe en plein hiver, non, en été. Hein. Bah, remarquez, on a quatre fois par jour, l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Hein. Bon. Alors, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je crois que derrière tout ça, moi, je voudrais tout simplement vous encourager. On n'a pas prié en vain, mes frères et sœurs. Et on ne va pas en faire un drame de ce que nous avons vécu. On ne va pas en faire un drame. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'Église avait besoin de passer par là. Elle a été épurée. Moi, j'avais besoin de passer par là, même si j'ai 45 ans de ministère maintenant. Hein. Mais oui, je bénis le Seigneur. Et puis, les intéressés ont besoin de passer par là. Et s'il y a une chose que nous prions maintenant, c'est que les intéressés, ceux qui sont confrontés directement avec cette situation, eh bien, vraiment, ils se repentent, ils se tournent vers Jésus et ils changent. Ils changent enfin. Ce n'est pas leur destruction, ce n'est pas leur éviction et tout ce que vous voulez. Non. Ça, c'est notre prière. Et je l'ai entendu de la part de... On ne prie pas pour ceci, cela, mais on prie pour que véritablement, eh bien, il y ait vraiment quelque chose qui soit positif. Mais on le fait pour tous ceux qui sont... Ça n'a rien à voir. Mais pour tous ceux qui sont rétrogrades, en disant, ben voilà, ils étaient au milieu de nous, ils sont partis. Bon, ils vont faire leurs expériences, mais qu'ils reviennent à un moment donné, repentant. Aïe, aïe, aïe. Alors, je dis qu'il y a des soupirs, comme quand on monte une montagne. Eh oui, dites donc, hein, vous n'avez pas le souffle alerte. Hein. Le soupir de ceux qui regardent et qui espèrent le sommet. Il y a toujours un but. Il y a toujours quelque chose qui est préparé par Dieu. Quand on est dans sa volonté, c'est pour ça que le regard vers la parole de Dieu qui est notre guide, elle est importante. On ne court pas après n'importe quoi. Hein. Oui. Le soupir de ceux qui regardent et qui espèrent le sommet. Et il y a cette belle parole que vous connaissez. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Et le secours me vient de l'Éternel. Faites confiance jusqu'au bout au Seigneur, même si vous passez des temps de désert, même si vous êtes dans toutes sortes de choses, vous voyez qu'il n'y a pas un souffle de vent. Il est, nous l'avons chanté, il est le vent, il est ma voile. Gravir, qu'est-ce que ça signifie ? Gravir, qu'est-ce que ça signifie ? C'est monter avec effort, avec pénibilité, si on peut le dire comme ça, une pente raide, rude, où nous souffrons, nous nous essoufflons. Et ça, c'est toujours suivi d'épuisement. Parlons de l'épuisement, finalement, du temps. C'est important aussi. L'épuisement suite à un effort immense, avec le sentiment de ne jamais pouvoir y arriver. Ça vous est peut-être venu à l'esprit où vous avez fait des efforts surhumains, on peut le dire. Dans certains cas, c'est surhumain. Et qu'à un moment donné, en disant, moi, fini, j'arrête. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ouais. Et cet effort intense, eh bien, quelque part, nous amène au découragement. D'autant que le but est tout proche. Il y a une belle parole de l'apôtre Paul, parce que lui, il en a vu des vertes et des toutes les couleurs. Et au chapitre 3 de Philippiens, il est dit ceci, que je retrouve le passage, voilà. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, puis quelquefois il fait tarder le prix, hein, ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Attention, c'est de l'autre côté. « Mais je cours. » Courir, c'est un effort. Pour tâcher de le saisir, je ne renie rien, je ne m'arrête à rien qui puisse m'arrêter. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors s'il m'a saisi, c'est qu'il va me saisir encore pour aller jusqu'au bout, selon son bon plaisir. Et il va créer en moi le vouloir et le faire d'atteindre le but. Et il ajoutera, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Modeste, hein, notre ami Paul. Mais je fais une chose, une chose. Je me disperse pas, je me perds pas dans toutes sortes de choses pour voir si ça marche, ça marche pas, je vais vers une autre chose. Non, je fais une chose, oubliant ce qui était en arrière. Notre pensée, on le revivra jamais. Notre pensée, c'est fini, hein, de toute manière. Alors, il est dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant en avant, les yeux devant. Les yeux fixés sur Jésus, naturellement, s'entend. Je cours vers le but. Il court toujours. pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement des victoires que nous pouvons avoir sur la terre. Être délivré du mal, être délivré du malin, les grands combats spirituels et cosmiques que nous avons menés. Mais c'est le prix de la vocation dans les cieux pour l'éternité. C'est ça ce qui doit nous motiver en tout et pour tout. Je voudrais vous donner une ou deux anecdotes avant de terminer. L'épreuve de toute ascension est accablante. Ici, on ne peut pas faire de la montagne, hein. On ne peut pas faire des cordées, hein. C'est pas possible. Hein. Sinon, quand on se baigne dans la mer, on ne perd personne. Hein. Mais toujours est-il que ce n'est pas le département en tout cas. Et souvent, le sommet semble hors d'atteinte, et plus on s'en approche de ce sommet, on le voit. Alors, je ne sais pas si quelquefois vous avez grimpé quelques petites montagnes, petites, hein, je ne veux pas. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit qu'on le regarde comme ça à un moment donné, ça dépend des inclinations de la pente. Mais toujours est-il, plus on s'en approche, et vous remarquerez, à cause de notre fatigue, à cause de notre épuisement, à cause quelque part, eh bien, que nous avons une défaillance dans nos forces physiques, on s'aperçoit que les obstacles deviennent plus nombreux, et peut-être on les grossit, hein, c'est possible. Hein. Ils deviennent imprévisibles parce qu'on n'y avait pas pensé. Et ils sont ressentis comme un enfer tourmenté. Ah ouais. On dirait, mais j'y arriverai jamais. Je suis peut-être à 10 mètres, à 15 mètres, à 100 mètres du sommet, mais c'est pas possible. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai eu le témoignage d'un jeune homme. Cette semaine, je suis en rapport avec lui pratiquement tous les jours. C'est mon petit-fils qui est actuellement en Bolivie. Il est au Pérou aujourd'hui. Et il a voulu, avec un ami, eh bien, faire une ascension dans les Andes. Et le but, il est monté jusqu'à 6300 mètres. Oh ! Papy et mamie étaient malades. Alors, il s'était préparé en France pour avoir toutes les possibilités, pour respirer les médicaments, etc., etc. Et puis, il était bien encadré là-bas. On a vu une photo, on aurait cru que c'était des martiens. Ah ouais, alors, il n'y avait plus que ceci et cela. Alors, vraiment, c'est vrai que là, on pouvait dire qu'on avait peur. Hein. Mais bon, c'est un garçon sérieux, mais un accident, ça peut toujours arriver. Hein. Hein. Il a fait d'autres choses, il est descendu en Amazonie, dans la forêt, etc., etc. Chaque fois qu'il nous a dit ça, bon, Seigneur, vous savez ce qu'on a demandé ? Ben, tu le gardes. Alors, prenons 3 jours. Hein. Et ça, je pense que moi qui suis un alpiniste hors pair, hein, alors moi, ça me faisait descendre au fond, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pour dire, hein, et c'est un aventurier, hein, puis en plus il est photographe, hein, amateur, hein, et il passe dans des... Finalement, il les diffuse dans des musées, des choses comme ça. Mais c'est pour vous dire, hein, qu'il nous a raconté très peu, parce que bon, il y avait encore de la communication, mais c'est terrible. Les saignements de nez, le mal à la tête, les vomissements, enfin toutes sortes de choses. Mais c'est terrible, et tout ce que je ne peux pas savoir, tout ce qu'il ne nous a pas dit, je me dis, mais c'est insensé, hein, c'est vrai. Alors au bout de 3 jours, il est redescendu. On a pris de l'oxygène. Il est redescendu, mais il est reparti aussitôt auprès du lac Titicaca. Vous connaissez ? Allez-y, là-bas, vous allez voir. Mais ne manquez pas d'air, hein. Si vous y allez, vous ne manquez pas d'air. Mais c'est pour vous dire. Alors bon, c'est nos petits-enfants, c'est ceci, cela, etc. Mais qu'est-ce que nous pouvons avoir, même quand on arrive à un certain âge, des soucis pour nos enfants, des soucis, même s'ils sont adultes, et des soucis pour nos petits-enfants. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, on prie. Hein. On dit, c'est formidable. Alors bon, on sait qu'il est revenu. Mais je voudrais vous dire quand même que le danger que cela comporte, 6300 mètres. Vous regardez le Mont Blanc en bas. Oui, vous le regardez comme ça. Alors bon, c'est vrai que c'est des spécialistes là-bas, hein, les grimpeurs et puis la cordée, etc., etc. Mais c'est difficile tout ça. Et il nous a dit, pour nous rassurer, il m'a dit 8 jours avant, Il n'était pas dans la cordée, là. C'était 8 jours après pour eux. Et il y a une chose qu'il nous a dit, c'est pour vous dire le grand danger qu'il peut y avoir. Hein. Il y avait un jeune Allemand qui avait été prévenu, qui avait les autorités pour grimper, avait dit « Vous n'allumez aucune cigarette ». Le gars, il n'a pas tenu compte et il est mort sur le coup. Ouais. Il est mort. Un jeune Allemand, il avait peut-être 20 ou 25 ans. Alors, heureusement qu'il nous a dit ça quand il était redescendu. Hein. Mais comme il ne fume pas, c'est très bien. Ne fumez pas, ça peut toujours, quand vous montez sur une colline, paf, ça peut exploser. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Alors, pour revenir à cet enfer tourmenté, il faut vraiment du courage. Bon, c'est plutôt de l'inconscience hein, chez eux. Pourtant, dans la vallée, il y avait de l'euphorie de l'escalade, parce qu'on est toujours content d'avoir une victoire. Mais attendez, dans quelles conditions et avec qui nous allons faire cette escalade? L'euphorie de l'escalade, parce que nous avons une certitude que nous allons, et c'est bien humainement parlant, c'est bien que nous allons être victorieux. Et ce sont tous les sommets que je voudrais rassembler maintenant, de toutes les tribulations, de toutes les difficultés, de toutes les épreuves de l'existence de la vie des hommes. C'est ça. Que ce soit un sommet ou que ce soit finalement, là, n'importe quoi que nous pouvons rencontrer. Avec Jésus, avec sa parole, et dans la foi, et uniquement avec la foi, nous pouvons être vainqueurs. Mais là, on est garanti de gagner. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs, qui avez passé peut-être une mauvaise semaine, qui vous tourmentez pour savoir comment vous allez vivre. Pour ceux qui nous rejoignent, les frères qui ont été baptisés dernièrement, en disant, mais comment je vais vivre? Parce que je vois les autres, bon, ça se passe bien comme ça dans un culte. Hein. Ben, ça se passe toujours bien, c'est ce que je voulais dire. Mais de dire, mais voilà, mais comment je vais pouvoir vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, et tout ça, et que je vais aller jusqu'au bout. Mais le Seigneur va vous conduire jusqu'au bout s'il vous a appelé. N'ayez pas peur. Reprendre courage, se redresser, respirer, avancer pas à pas, ne courez pas, et les derniers mètres seront couronnés du succès grâce à votre effort dans lequel vous avez mis pour croire. Croire au Seigneur. Chaque bataille, chaque doute, chaque hésitation ne doit arrêter l'aventure d'aller jusqu'au sommet. Laquelle aventure ouvre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, et nous allons prendre une victoire sur nous-mêmes. Vous savez, quand Jésus était dans le désert pendant 40 jours, hein, ce n'était pas un sommet, c'était le désert. Mais il a vaincu. Parce que véritablement, il a su attendre, s'attendre à Dieu. Oui, parce que Dieu a écrit, parce que Dieu a dit. Il s'est appuyé là-dessus. Eh bien, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Je finis. Ça va, vous n'avez pas faim? Ah non, ça coupe l'appétit, hein, la montagne, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est une lettre à un jeune homme anonyme qu'on lui a écrit dernièrement. Parce que vous savez, je suis à la retraite. Hein. Ça ne paraît pas. Quelquefois, vous voyez promener avec Myriam sur la plage en disant « Bon, voilà, c'est formidable hein. ». Oui, oui, mais c'est pas tout à fait ça, parce que... autre chose. Et à ce jeune homme, nous lui avons écrit, parce que lui, il est véritablement sur la montagne, et c'est grave pour la suite de sa vie. Hein. Ah oui, c'est un choix. On lui a écrit cette parole. « Tu es près du sommet, et la victoire sera la tienne. Avance avec confiance. » Encore et encore, il se bat depuis des années. Le moment approche pour profiter du fruit de tes combats. Et c'est un combat de toute sa famille aussi, hein. Pas n'importe quoi. Un combat remporté, des combats remportés parce que tes luttes ne seront pas vaines. Vos luttes ne seront jamais vaines, quoi qu'il en soit. Alors pour chaque combat livré, il y a toujours une issue au qualificatif de surprenante, d'inattendu, d'insoupçonné que Dieu a en réserve, que Dieu a mise de conscience. Parce que s'il nous demande une chose, c'est que véritablement, il a préparé la sortie. Toute épreuve qui vous arrive, toute tribulation, toute tentation ne sera jamais vaine. Il y a toujours quelque chose derrière. Cependant, pour gravir la montagne effrayante, il y a des choses qui font peur. Hein. Oui. Cela demande le sacrifice de ta vie. C'est à lui qu'on écrit là. De ta vie. Et le lâcher prise. Lâcher prise de tes addictions. Un jeune homme. Le lâcher prise de tes passions qui te rend captif et malheureux. Et il est tout à fait conscient qu'il est en prison. Il n'est pas physiquement, naturellement. De tes habitudes et de tes servitudes avilissantes. Et il y a encore d'autres dans l'existence, il y a encore d'autres sommets à défier, mais tu sauras, par tes expériences précédentes, elles servent à quelque chose, nos expériences. Nous, on pourrait vous raconter qu'on a fait des expériences depuis l'âge de 20 et quelques années, quand on s'est converti, on en a fait quelques-unes, on les a pas oubliées, mais néanmoins, elles ont préparé les suivantes. Elles ont préparé les suivantes. Expériences précédentes, des confrontations que tu as vaincues, parce que tu as appris à les vaincre. Et c'est ça, justement. Tu exerces mes mains au combat, nous dit le Seigneur. Alors, vous avez des problèmes, vous avez des confrontations, mais le Seigneur est en train de vous donner les moyens pour les prochaines. Et s'il vous a délivré là, il va vous délivrer, même si elles sont trois fois pires. Il va vous donner, ça c'est l'instruction de Dieu, ce savoir-faire. C'est la grande école que Dieu nous apprend sur cette terre. Alors, courage, cramponne-toi, fais l'effort d'y croire et tu en sortiras victorieux. Faites l'effort de croire, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas grand-chose. Ça, c'est sûr, enfin, en ce qui me concerne. Mais une chose que c'est vrai, tu as été toujours à nos côtés. Tu as été l'avocat, tu as été le consolateur, tu as été le secouriste. Tu as été, Seigneur, dans bien des histoires et c'est vrai que quelquefois, eh bien, nous étions près de la mer morte parce que rien ne bougeait, rien ne se faisait. Et puis à un moment donné, eh bien, tu as réveillé nos cœurs. Et là, nous nous sommes souvenus de cette belle parole. Tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Moi, je te prie pour mes frères et sœurs, brièvement ce matin. Nous nous connaissons. Je connais, en effet, eh bien, moi aussi, partiellement, ceux qui traversent des moments difficiles et qui sont aux prises avec des problèmes de courage. Qui véritablement, Seigneur, doutent de qu'ils y arriveront. Seigneur, je te demande de les visiter maintenant. Et dans leurs prières secrètes, dans leur cœur, eh bien, tu entends, Seigneur, ce qu'ils te demandent. Et tu vas le leur confirmer à un moment ou à un autre. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Et remplis ton Église de cet effort. Parce que c'est un effort qui n'a rien de physique, qui n'a rien. Mais c'est un effort de vouloir. De volonté, Seigneur, et bien de volonté de croire que Jésus est Sauveur, il est Seigneur, et il est celui qui marche devant nous pour être le guide. Et nous, nous sommes encordés avec Jésus pour gravir la montagne, les montagnes. Merci Jésus. Amen.